Travailler, c'est trop dur.
Bon, comme le disait Dionne Warwick, on a besoin d'amour, on a besoin de travailler aussi. Bonjour Émilie Gasque.
Salut.
Cette semaine, vous êtes avec Lucia qui travaille, notamment dans la finance.
Double travail, Lucia. Un long parcours dans la finance et puis d'un seul coup, une activité en santé bien-être. Mais elle va le raconter elle-même. Elle a 60 ans. Je la rencontre à Lausanne dans un très bel appartement qui lui permet justement d'avoir deux ambiances comme ça. Deux salles, une salle avec des ordinateurs et une salle qui sont plutôt les huiles essentielles. Vous voyez le truc? Et je lui demande, est-ce que travailler c'est trop dur?
Travailler pour moi, ça a été dur pendant de longues années. Quand on se construit soi-même, c'est pas toujours facile parce que l'interaction avec les autres, ce n'est pas évident, pas toujours. Ensuite, il y a l'immaturité émotionnelle peut-être, où on prend les choses trop à cœur, où on a des hésitations et puis on se fait des films par moments. Les relations ne sont pas faciles toujours, surtout quand on navigue dans un environnement qu'on se dit qu'on n'a pas vraiment choisi, que ce n'est pas une vocation, que c'est plutôt alimentaire. Donc on se donne de la peine, mais cette peine, elle coûte beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie au niveau personnel, donc des doutes, des frustrations, etc. Ensuite, comme les années passent et qu'on devient heureusement un peu plus sage, eh bien, on apprend à relativiser, à accepter ses propres lacunes, disons, accepter les lacunes des autres, avoir une tolérance qui est peut-être un peu plus grande. Et petit à petit, il y a le plaisir qui s'installe aussi. Et maintenant, je suis très heureuse d'être là où je suis.
Quel est votre métier?
Alors, j'en ai deux. Un métier qui est plutôt dans la finance et l'immobilier. Et puis, bah, tout un autre pan qui est, thérapeute bien-être.
C'est un bon combo, hein, thérapeute bien-être et finance immobilière.
Oui, en fait, je suis reliée à ce qui est très terre-à-terre, la finance. On doit manger, on se nourrit. Et puis, l'autre aspect où on nourrit notre personne, notre âme.
Enfant, est-ce que vous vous êtes dit comme ça un matin, ah, j'aimerais travailler dans la finance?
Pas du tout. D'ailleurs, j'avais dit à ma mère que les deux métiers que je voudrais jamais faire, c'était quelque chose dans la banque ou dans l'assurance. Et je me suis retrouvée là où j'ai dit que je voulais pas. Parce que je rêvais d'écrire des contes de fées. Je voulais être écrivain. Ou écrivaine. Voilà.
Que faisaient vos parents?
Mon père était mécanicien de précision et ma mère était mère au foyer et concierge.
Et pour quelle raison est-ce que vous lui aviez dit la banque et l'assurance? Non. Est-ce que vos parents vous poussaient à choisir une voie?
Mes parents voulaient la sécurité parce qu'ils sont arrivés d'Italie la valise en carton. Donc pour eux, c'était important que j'aie un métier qui me permettrait de vivre dignement, parce qu'ils disaient toujours que voilà, la Suisse les avait fait chrétiens, c'est une expression italienne, ça veut dire que grâce à la Suisse, ils ont eu une vie digne, et pour ces enfants, ils avaient envie que ça soit confortable.
Et vous qui rêviez de contes de fées, c'était lourd, hein, cette redevabilité aux parents?
En fait, j'ai toujours été un peu rebelle, donc moi j'ai 60 ans, donc j'ai grandi dans cette période post-hippie. C'était faites l'amour par la guerre, donc j'étais à fond là-dedans. Donc comme j'ai une tête assez dure, ou l'instinct de survie, j'ai cherché à toujours bien gagner ma vie, tout en étant un peu décalé par rapport aux conventions, au conformisme, parce que je comprenais pas pourquoi on essaye de travailler l'un contre l'autre ou se mettre en avant de manière peu bienveillante. Oui, c'est des gens très ambitieux au niveau du travail. Et puis l'ambition, c'est un bon moteur. Après, quand on pense à sa carrière et puis qu'on regarde ni à droite ni à gauche ce que ça coûte à d'autres ou même à soi-même, parce qu'il y en a beaucoup qui se brûlent par ambition, qui sont capables d'aller bien au-delà de ce qu'ils peuvent assumer.
Est-ce que vous y avez laissé des plumes ?
C'est une question de perspective. Mais moi, j'ai envie de dire que j'ai aidé à en avoir davantage de plumes. Parce que chaque expérience m'a apporté quelque chose, m'a mené plus vers moi-même. Donc, toutes ces expériences sont un capital pour que je puisse justement, dans mon métier d'aide, comprendre ce que vivent les gens et peut-être les aider à changer de perspective. Parce qu'on peut rester dans la souffrance et on peut en faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ce n'est pas douloureux, mais il y a une possibilité et souvent, même dans les moments les plus noirs, on peut essayer de mettre la lampe torche vers un petit coin et puis voir des petits trésors qui se cachent là-dedans. Donc en fait, c'est avoir l'espoir, la confiance. Et... voilà, donc moi, j'estime que je n'ai pas laissé de plume, je me suis emplumée.
Comment se passait l'école pour vous ?
Pas bien. J'étais rêveuse, j'étais une fille d'immigrée, donc avec des cheveux frisés et petite parmi des gens qui étaient grands, blonds, aux yeux bleus. Donc c'était dur parce que je suis née dans une petite ville à côté de Zurich et ils n'étaient pas très gentils, quoi. Ils étaient... aujourd'hui, on dirait raciste, mais on sait que l'humain, il a toujours peur de l'inconnu ou de ce qui nous paraît étrange. Donc, voilà, c'était pas évident.
Qui mettait des mots sur ce que vous viviez ?
En fait, c'était aussi toute cette période où il y avait cette votation Schwarzenbach. C'était comme légitime de avoir un regard critique sur ce qui n'est pas... Suisse. Donc à l'époque, on ne parlait pas de racisme. On parlait de personnes qui sont différentes, qui vivent différemment, qui mangent différemment.
Et qui dérangent.
Ou peut-être pour se sentir plus conforté, on dénigre. C'était une souffrance, je l'avoue. J'étais malheureuse. Enfant, j'étais très malheureuse. Mais... on est enfant, on est adolescent, après on est adulte. Maintenant, je suis d'un âge très mûr, donc c'est une évolution.
Est-ce que ça vous a motivé pour réussir, justement ?
Pour réussir, pour être joyeuse, dans la mesure du possible. C'est pas venu non plus tout de suite. Ça m'a motivée à donner beaucoup d'amour à mes enfants, à maintenant être plutôt un mentor à transmettre certaines valeurs, certaines attitudes, le positionnement pour des plus jeunes qui sont en début de carrière, pour qu'ils puissent traverser ça un peu plus sereinement que moi je l'ai fait.
Et comment arrive le choix alors du cursus scolaire, des études, du travail ?
Au début, je pensais que ce n'était pas un choix. Je pensais que c'était une nécessité. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants assez jeunes. Et donc après, j'ai divorcé, j'ai élevé seule mes deux enfants. Donc, il fallait fonctionner, gagner sa vie, etc. Jusqu'au jour où j'ai été confrontée à ma déclaration « je n'ai pas eu le choix ». Et là, on a décortiqué un petit peu. Finalement, j'ai fait le choix. Le choix d'avoir les moyens d'élever mes enfants, de leur permettre de vivre comme tous les autres enfants. Donc c'était un choix. Et à partir du moment où on comprend qu'on a toujours un choix, parfois c'est un choix qui nous tient à cœur, parfois c'est un choix par nécessité, mais c'est un choix. Et là, Il y a eu quelque chose qui a complètement tourné, qui m'a aidé à évoluer de manière positive dans ma vie.
À ne plus subir.
Voilà. Même si je subis, c'est que je l'ai choisi.
Ça devient plus simple.
Oui.
C'est vrai.
Ça apaise.
Ouais.
Parce que justement, quand on est dans cette révolte ou colère, hein, ou dans... Oui, c'est beaucoup plus difficile. Il y a de la résistance. Alors que quand on dit, ben voilà, je subis, mais c'est un choix, ou c'était un choix, eh bien, on voit aussi d'autres opportunités. Parce qu'on lâche quelque chose de difficile. On lâche notre concentration sur quelque chose, finalement, qui n'est pas constructif. On ouvre les yeux, les oreilles, et on s'ouvre à autre chose, qui peut-être est mieux.
Et vous avez réussi cela ?
Oui, je suis chanceuse.
Et volontaire ?
Oui, volontaire aussi, mais vous voyez, ça fait un peu prétentieux. Y a des personnes qui ont la volonté, qui essayent et puis que finalement ils ont un parcours qui est difficile. Et moi je pense que c'est chacun a en fait son cheminement et moi je trouve que j'ai eu de la chance parce que est-ce que c'est parce que j'avais la force, est-ce que c'est parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, est-ce que c'est parce que j'ai eu tellement d'amour de mes enfants, j'ai eu. Bien sûr, je l'ai cherché, cette chance, mais je l'ai eue.
Mais il y a beaucoup de facteurs. Hein.
C'est pas si simple que ça. Donc moi, j'ai eu de la chance.
Dans le monde de la finance, vous étiez aussi cette fille d'immigrée ?
Non. À Zurich, j'étais italienne, même si j'étais suisse, j'étais quand même une italienne. Donc, je suis partie en France, où j'étais vraiment une étrangère. Et puis, j'ai atterri en Suisse romande, où c'est très, très confortable de dire « Je suis suisse-allemande d'origine italienne ». Et c'est juste... voilà, c'est juste super.
Et vous êtes une femme dans la finance ?
C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais souvent la seule femme dans des séances ou dans des conférences. Alors ça a commencé peut-être la seule pour devenir une des seules. Et maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans la finance et qui apportent un nouveau vent peut-être. Mais c'est comme quand j'étais enfant. Donc quand vous faites partie de la minorité, quelque part, vous acceptez que vous êtes la minorité et puis vous vivez avec, quoi. Aussi parce qu'à l'époque, vous voyez, la femme, elle devait s'occuper des enfants, devait rester à la maison. Il y avait le regard un peu, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde alors qu'elle pourrait être à la maison et s'occuper de ses enfants ? C'est aussi qu'à l'époque, on se disait, pour pouvoir amener quelque chose à l'entreprise, ben, il faut être disponible. Donc une femme qui a des enfants, qui doit les amener chez le médecin, qui doit rester à la maison quand ils sont malades, ça n'a pas de place pour avoir une carrière plus appuyée, voyez. Alors que j'avais des nounous qui restaient à la maison avec mes enfants et qui les amenaient à l'école, etc. Donc même quand mes enfants étaient malades, moi j'allais au travail.
Il y avait donc la difficulté d'être une femme au milieu d'hommes, mais en plus la difficulté d'être une mère qui n'est pas auprès de ses enfants.
Oui, après, c'est vrai que je n'avais pas beaucoup, beaucoup de temps avec mes enfants. Mais le temps que j'avais, on chantait à tue-tête sur des chansons, on regardait des films, je faisais des saladiers de pop-corn. Et... Donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Et quand c'était important, j'étais là. Donc c'était pas facile, mais... C'est comme, vous êtes dans un grand champ de fleurs. Vous avez plein de belles fleurs. C'est super. Mais si vous êtes dans un pré où il y a très peu de fleurs, si vous avez quelques fleurs et que vous les regardez et que vous les trouvez magnifiques, ben c'est magnifique. Donc dans l'absolu, même si les moments n'étaient pas très nombreux, eh ben c'était magnifique. Pas toujours, hein, parce que parfois, dans l'éducation, on doit être aussi un peu le policier, mais dans l'absolu, oui. Et puis, comme j'ai la chance que mes enfants sont grands maintenant et que j'ai du temps, j'ai pu faire des cours d'hypnose ericksonienne, j'ai pu faire des cours pour la prévention et le suivi du burn-out. Donc j'ai pu vraiment aussi me former dans ce qui me tient à cœur.
Est-ce que dans votre milieu de travail, le burn-out est fréquent ?
Oui, j'ai peut-être eu la chance de ne pas être arrivée tout en bas, parce que j'ai toujours eu une petite flamme en moi, et puis peut-être ce sens du devoir pour mes enfants. Mais j'ai passé vraiment tout près. Et c'est le grand trou noir quand il n'y a presque plus d'issue, qu'on est juste fatigué. Et que même s'habiller, prendre une douche, peut être très très laborieux. Mais comme je vous dis, ça, j'ai peut-être touché, mais je ne suis pas tombée dedans. Et voilà, là aussi, je suis pleine de gratitude pour ça.
Pleine de gratitude, chanceuse, reconnaissante. Est-ce que vous avez la foi ?
Oui, je n'adhère pas à une religion particulière. Parce que je n'aime pas les dogmes, les règles. J'aime bien la liberté. Donc, je ne m'accroche pas à une religion. Je respecte chaque religion. Je respecte chaque personne qui a et pratique sa religion. Parce que chaque personne qui fait quelque chose pour aller bien, c'est honorable. Mais j'ai la foi, oui. Et en fait, si vous voulez, je considère d'avoir une ligne directe.
Rien que ça.
Non, mais
cette ligne directe, est-ce que vous voulez nous dire qu'en fait c'est cet instinct de survie, cette chance, cette petite flamme?
Vous savez, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça la providence. Le mot qu'on y met dessus est finalement pas important. C'est un soutien. Si j'avais pas eu cette conviction qu'il y a quelque chose, il y a un dessein pour moi, il y a un chemin que je suis en train de faire parce que finalement, ça sert à quelque chose, eh bien, j'aurais pas pu. Et des fois, de juste dire, je vous en prie, aidez-moi, c'est déjà formuler une phrase d'espoir. Et on se sent moins seul et on se sent soutenu.
Qu'est-ce que vous aimeriez changer au monde du travail, si vous aviez la possibilité de le transformer?
Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir changer quoi que ce soit, mais
on rêve. Comme dans un conte de fées, vous avez tous les pouvoirs.
Dans un conte de fées, voilà. C'est que on permette aux personnes qui travaillent d'être à l'aise pour que la personne ne se sente pas rejetée, heurtée. Donc, je pense que on devrait déjà, quand les enfants vont à l'école, mettre beaucoup plus l'accent sur le vivre ensemble, le respect, accepter que chacun a son monde à lui, sa vérité, sa perception des choses, et que c'est quand on va comprendre ce que ça représente pour l'autre, et donc c'est réciproque, c'est là où on trouve ce petit pont qui fait qu'il y a un lien constructif. Et pas la destruction. Donc si je pouvais changer avec une baguette magique, ça serait de enseigner déjà aux tout petits ce que ça veut dire le vivre ensemble.
C'est Lucia qui travaille dans la finance, et pas seulement, et qui nous parlait de son rapport au travail. On va la retrouver demain. Émilie, on vous retrouve dans un instant pour votre question à Fernand Couche, mais tout de suite une information qui concerne le trafic ferroviaire.
Infotrafic RTS.
Oui, pour vous dire que la ligne Lausanne-Genève est actuellement interrompue entre Gland et Nyon et que tous les trains sont supprimés pour une durée indéterminée. Voilà, avec tous ces gens qui circulent entre 16 et 17 heures sur cette ligne,
on leur souhaite
ça
plein
va être
de
la pagaille. Et ben, ils peuvent écouter la radio, ouais, par exemple, s'ils ont un casque. Émilie Gasque, c'est à vous.
Oui, ma petite question avant de partir. Fernand, j'aimerais savoir si, à vous aussi, je donnais une baguette magique pour faire exactement ce que vous voulez, mais concernant le monde du travail, qu'est-ce que vous pourriez changer ou qu'est-ce que vous aimeriez changer au monde du travail si vous aviez tous les pouvoirs, tous les savoirs, toutes les possibilités?
Bien, il faudrait tout d'abord aussi qu'on essaye de venir sur le rôle ou une signification ou une valeur du travail qui n'est pas celle que l'on met en priorité aujourd'hui au sommet du tableau.
C'est-à-dire
l'efficacité, l'hyperformation, l'hyperrentabilité, l'hypercompétitivité. C'est des valeurs de travail qui fatiguent, qui épuisent, et qui permettent pas, sauf peut-être dans les échelons supérieurs, hein, dans les entreprises, c'est plus difficile aussi dans l'administration, qui permettent pas aux gens de s'épanouir. Et j'ai le sentiment que la façon dont on a organisé le travail, les objectifs que se fixent les entreprises, même dans l'agriculture, hein, on se fixe des objectifs qui nous font faire des choses où on n'est pas d'accord avec notre conscience, hein. Sur pousser à l'entabilité du bétail, faire un maximum de viande en un minimum de temps. Là, on a un modèle industriel de rentabilité qui fait que la personne, femme, homme et enfant, hein, dans certains pays, sont soumis à cette règle de rentabilité, de rendement, passent leur vie à ça et ils passent à côté de leur vie. Et je suis persuadé que si on mettait une autre signification au temps que l'on passe à travailler et qu'on redonne des libertés, qu'on redonne des confiances dans l'entreprise, dans l'administration publique, je pense qu'on aurait moins de problèmes sociaux et on aurait plus de gens épanouis. Je me permets de dire ça parce que moi j'ai fait à peu près ce que je voulais. J'étais assistant social 3 ans, j'ai fait chauffeur de camion, c'est un rêve d'enfant, je l'ai réalisé. J'ai fait chauffeur d'autocar, c'est un rêve d'enfant, je l'ai réalisé. J'ai voulu revenir à la paysannerie parce qu'on avait dû vendre le domaine pour des raisons que j'ai expliquées avant. J'ai retrouvé un petit domaine en association et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui avec lesquels j'ai pu partager ces 40, 45 ans de vie sur ce domaine. Je me suis intéressé au syndicalisme paysan pour défendre des valeurs. J'ai été engagé comme syndicaliste paysan à mi-temps. Je me suis intéressé à la politique. J'ai été élu. Ça s'est un peu mal terminé au Conseil d'État, mais ça, c'est une vieille histoire. Et je me retrouve toujours dans ce lieu que j'aime beaucoup, qui est le domaine, où je peux aller quand je veux, faire ce que j'ai envie de faire en fonction maintenant des forces que j'ai actuellement. Et je suis persuadé que si on pouvait multiplier à l'infini des parcours où on change d'activité, où on choisit ce qu'on a envie de faire, je dirais qu'il y aurait moins de malheurs sur Terre.
Ouais.
Voilà ce que je peux répondre.
Moi, je ressens dans la difficulté de pouvoir trouver le travail qui nous correspond un inconfort qui va parfois jusqu'à la détestation de ce qu'on fait, un malheur donc du travail qui est fait, de la personne qui fait le travail, mais du travail fourni aussi. Et du coup, tout le monde est en déséquilibre, en fait. Il y a comme un décalage entre tout, quoi, entre ce qu'on fait qui nous plaît pas, ce qui est mal fait, la personne qui le reçoit, et personne n'est heureux à la fin.
Oui, et puis il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour sortir de cette situation. Hein. Y a beaucoup de gens, notamment des femmes, avec des enfants où le père paye pas les pensions, mais ils sont séparés, qui sont contraintes de rester dans des activités qui ne sont pas satisfaisantes. Et là il y a une souffrance. Et je trouve assez étonnant qu'on n'ait même pas pu, dans ce secteur-là, avec tout ce qu'on connaît de la psychologie nécessaire pour être le moins malheureux possible dans ce monde, qu'on n'ait pas réussi à faire plus de progrès, qu'on n'ait pas pu faire plus confiance à celles et ceux qui travaillent avec nous, aux côtés de nous, avec toujours ces rapports d'activité chiffrés, etc., où on se compare, on n'est pas assez compétitif, hein, on l'entend dans les bilans d'entreprise, là, il faudra trouver plus de compétitivité, dégager plus de compétitivité. Pourquoi ? Pour servir les actionnaires ? Pour servir des salaires tellement élevés que les gens qui gagnent ces millions par année ne savent plus que faire avec ce pognon ? Ils ont tout. Et je suis persuadé que quelques-uns sont encore malheureux.
Est-ce que c'est pas la nature de l'homme? Enfin, l'homme est un loup pour l'homme. C'est une banalité, mais est-ce que ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant, Fernand Cluche?
Ah, je pense, hein, avec ce qui se passe, on a, sur l'essence même de l'humain, on n'a pas beaucoup progressé.
Non.
Mais moi, je dirais, ce qui me relance, c'est que je sais que la marche pour faire mieux, elle est très large. Et qu'on n'est pas assez nombreux à le faire. Mais moi, ça me relance penser qu'on peut encore réaliser et faire mieux.
Mais c'est
Emily,
sûr.
Voilà.
Moi, je suis toujours sûre. D'ailleurs, je trouve que les gens que je rencontre et que j'écoute beaucoup me semblent toujours vouloir faire de leur mieux. Et c'est ce qui me donne beaucoup de joie, en fait, à être ici et écouter les unes et les autres.
On y travaille tous les jours.
Ouais.
On se retrouve demain avec Lucia.
Et on parlera d'amour. J'espère que vous allez nous en parler un petit peu, vous aussi. Je crois savoir que vous êtes un grand amoureux. À demain.
À demain, Emily.
Salut.
Drôle d'époque. De 15h à 17h.